La première, podcast.
Mon grand-père, ce héros.
Une série proposée par Christine Mazuy.
Une réalisation de Bruno Balthazar.
Une production, La première.
Je m'appelle François Calais, j'ai 54 ans, je suis ingénieur industriel et je suis le neveu d'Eva Calais, religieuse et fondatrice d'un hôpital pilote à Liège. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, en février 1971, l'hôpital va être inauguré, mais pas ouvert. Parce que les corporations médicales refusent de travailler dans cet hôpital à ces conditions-là. Il y a eu un boycott tout à fait mémorable dans les annales médicales.
Installée sur les hauteurs de Liège, la clinique Notre-Dame des Bruyères était un établissement résolument innovant. Dès les années 70, par exemple, on y applique le tiers payant. Cela ne plaît pas à tout le monde, mais la directrice tient bon. Elle s'appelle Sœur Odile Léonie, Eva Calais pour l'état civil. Et si elle est entrée en religion, ce n'est pas pour fuir le monde, mais plutôt pour l'affronter à une époque où les femmes étaient trop souvent cantonnées dans leur foyer.
Ma tante est née à Liège en 1908. Elle va perdre sa maman à l'âge de 13 ans. Elle a un frère et quatre sœurs. Elle est la quatrième des six. Le cinquième, c'est mon père. Et la sixième, c'est une petite fille qui mourra en très bas âge. Ça va certainement constituer un drame familial très important. Alors elle va faire le choix d'entrer au couvent, chez les Filles de la Croix à Liège, qui est un ordre de sœurs fondée par une liégeoise un siècle avant. Et au moment où elle entre, le choix qu'elle pose, c'est en fait un choix qui est déterminé en très grande partie par son désir d'aller au Congo. Suivant la logique de l'époque, une femme était destinée, si elle était mariée, à devenir mère de famille, si elle était célibataire, à s'occuper éventuellement de ses parents plus âgés s'ils sont toujours en vie. Et si elle entrait au couvent, cela lui permettait certainement de développer des initiatives et des capacités qu'on ne soupçonne pas actuellement. Ces premières années vont se dérouler à Liège, en fait, parce que la première chose à faire quand on entre dans cette congrégation, c'est de faire un noviciat qui dure 7 à 8 ans, 8 ans en réalité. Et lorsqu'elle fit ses vœux perpétuels en 1939, on lui demanda de ne pas partir, parce qu'en fait, le graduat littéraire qu'elle avait n'était plus valable à ce moment-là pour être reconnu en Afrique, au Congo en l'occurrence. Et donc, la communauté religieuse lui a demandé d'enseigner dans une école qu'elle possédait à Timistère, dans un petit hameau qui s'appelle Bève. Et c'est là qu'elle est restée de 1939 à 1955. On a appris que pendant la guerre, elle avait caché des enfants juifs dans l'école. Et pour cela, nous allons avoir la reconnaissance de Juste parmi les nations venant de Yad Vashem à Jérusalem. Alors, après la guerre, elle dirige la communauté de sœurs de leur établissement de Bève Timistère. Et elle va également s'occuper de la maison de repos. Ce qu'elle va induire comme nouveauté, c'est que les personnes puissent amener leur propre mobilier. C'est vraiment tout à fait prophétique, c'est quelque chose qui n'existe pas à l'époque. Et au fur et à mesure de la fermeture du pensionnat, elle va faire remplacer les chambres du pensionnat, etc., par la maison de repos qu'elle voulait développer. En 1955, les Filles de la Croix vont lui demander d'occuper un poste extrêmement exigeant et très délicat, qui est le poste d'économe général de la congrégation. Ça veut dire qu'elle doit gérer tout l'aspect matériel, y compris l'achat de bâtiments, l'entretien des bâtiments, mais pas seulement en Belgique. Il y a des maisons dans différents pays, en Angleterre, au Congo, en Inde, et elle va se rendre dans ces différents pays. Donc là, en fait, elle peut retrouver son désir profond de voyage, d'aller au Congo. Et quand elle venait à la maison, après ses voyages, elle nous partageait Les photos, c'était des moments vraiment exceptionnels. Elle était pleine d'émotions et c'était extrêmement beau pour nous. Moi, j'étais gosse à l'époque. De voir cet émerveillement de ma tante pour ces différentes personnes qu'elle avait rencontrées, pour les groupes, pour ce qui se passait, pour les hôpitaux qu'ils construisaient là-bas et toute l'action sociale que la communauté faisait. En 1967, la décision fut prise de construire un hôpital de 250 lits, suivant les techniques les plus modernes et les plus humaines possibles. Le concept qu'ils voulaient développer, c'était pas seulement le malade, mais c'est aussi sa famille, les parents, les amis, les gens en visite, l'accompagnement éventuellement du malade, les personnes mourantes. Enfin, vraiment, toute personne humaine avait une place par rapport à la réflexion de la construction d'hôpital. Et cet hôpital, c'est donc la clinique Notre-Dame des Bruyères qui se trouve à Bois-de-Breux, au-dessus de Liège. Puis, dans les mois qui ont suivi la demande en 1967, elle va parcourir le monde et visiter différents hôpitaux qui sont tous, bien sûr, des hôpitaux de pointe. Et la première chose qu'elle a mis en place au niveau des travaux, c'était sa manière de voir le malade. Donc, par exemple, le service des urgences se trouve tout à l'entrée de la propriété. Donc c'est la première chose sur laquelle on tombe quand on va à l'hôpital, parce qu'elle estimait que les gens qui ont une urgence réelle doivent pouvoir trouver le service. Il n'y a pas question d'aller mettre le service à l'arrière, dans les sous-sols ou à un autre emplacement. Pour l'époque, c'était plus que prophétique, je veux dire. Et cet hôpital qui fut construit puis inauguré en 1971, a été certainement l'hôpital pilote de beaucoup d'autres pendant 10, voire 20 ans qui ont suivi. Du point de vue médical, l'hôpital a présenté aussi des innovations qui sont extrêmement importantes et inattendues. Je me souviens de la visite qu'on avait faite quand la pédiatrie a été terminée. Et le souci de ma tante était en fait de pouvoir garder la mère et l'enfant dans un espace commun. Ma tante a voulu reprendre un autre concept. Donc ce qu'elle voulait, c'était pouvoir mettre les soins de santé à disposition de tout le monde dans le plus bel hôpital possible. Le corps médical ne veut absolument pas y travailler pour un tarif réduit ou pour les gens pauvres. Mais elle voudrait en tout cas y faire un hôpital d'élite financière. Et elle va imposer un règlement d'ordre intérieur dans lequel se trouvent des choses tout à fait inacceptables par rapport à ce qui était commun à cette époque-là. C'est-à-dire qu'elle impose le tiers payant, elle impose que le personnel dépende de la direction et plus des médecins, elle introduit une perception centrale des honoraires et elle va créer, ce qui est tout à fait unique, un conseil médical dans la clinique, alors que la loi ne l'imposera qu'en 1987. Disons que les corporations médicales refusent de travailler dans cet hôpital à ces conditions-là. Et ma tante va s'obstiner et va en fait se mettre en conflit ouvert avec tout le corps médical de la région. Le boycott va durer un certain nombre de semaines, voire de mois. Donc, on a un hôpital qui coûte une fortune, qui est un hôpital pilote, qui est chauffé, entretenu, et il n'y a personne dedans. Ce qui va se passer, c'est que, au fur et à mesure des semaines qui passent de boycott total, les universités de Louvain et de Liège s'inquiètent. Liège s'inquiète que Louvain ne mette les pieds dans l'hôpital. Et Liège trouve que pour ses stagiaires et pour le développement de l'université, ce serait un hôpital vraiment exceptionnel. Et c'est ainsi que les premiers services qui vont s'ouvrir sont par exemple la maternité, parce qu'un professeur de Liège a accepté de faire un premier accouchement. Moi, je me souviens de ce premier accouchement, c'était un événement exceptionnel. Et successivement, grâce aux médecins de l'université de Liège, l'hôpital va s'ouvrir, service après service, dans les conditions auxquelles elle a décidé, mais sans faire aucune concession de quoi que ce soit. D'ailleurs, ce n'était pas du tout dans son tempérament. Pour elle, quand elle avait un projet qu'elle avait mûri et spirituellement mûrie, parce que ça nous dépasse peut-être, elle allait jusqu'au bout de son projet. Elle était inébranlable.